Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
C'est-à-dire un amour qui ne finira jamais. Seigneur, commence qu'un homme, dont les années sont comptées, peut t'aimer pour toujours. C'est toi qui l'as rendu possible. Parce que, Seigneur, par ton sacrifice, à cause de l'amour que tu as eu, toi, en premier pour nous, tu as donné ta vie, ton sang sur la croix de Golgotha. Et, Seigneur, pour celui qui se repent, qui vient à toi et qui se jette dans tes bras, qui pleure sur son péché, qui crie, Seigneur, sauve-moi, change-moi, transforme-moi. Tu le transformes, Seigneur. Il naît de nouveau, Seigneur. Et désormais, il a pour lui l'espérance de la vie éternelle. Et alors, cet homme-là, Seigneur, pourra t'aimer encore et encore pour l'éternité. Ô Jésus, Seigneur, nous voulons te servir, non pas seulement dans le temps, mais dans l'éternité, parce que nous t'aimons. Et ce que tu veux que nous fassions, Seigneur, nous sommes prêts à le faire. Nous voulons le faire, que ce soit dans un premier temps, ici-bas, sur cette terre, Seigneur, et après, dans l'éternité, que ce soit ainsi, tel que tu le veux. Car nous n'avons point de droit sur nous-mêmes, c'est toi qui as tous les droits sur nous-mêmes, Seigneur. Tu nous as rachetés par ton sang et de nous, Seigneur, à faire ta volonté, à te dire toujours et encore, Seigneur, que ton chemin est le meilleur et nous voulons y marcher. Nous voulons y marcher, conduis-nous dans tes voies, même si ces voies, dans le temps présent, et des fois, sont des voies difficiles. Peu importe, Seigneur, tu es avec nous et nous ne sommes pas seuls. Mais Seigneur, marcher dans tes voies, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Même ici-bas, Seigneur, c'est le bonheur. Même s'il faut pleurer, c'est un bonheur que personne ne peut nous enlever du fond de nos cœurs. C'est une réconciliation avec toi. C'est une place dans l'éternité. C'est vivre pour toi. C'est avoir un espoir qui ne sera jamais déçu. Merci Jésus. Parle-nous encore, fais-nous comprendre encore ta parole. Ta parole est la vérité. Merci Seigneur, merci. Déjà depuis plusieurs dimanches, nous sommes sur cette histoire de Gédéon. Et nous suivons cette histoire systématiquement. Comme aussi il y a bien des semaines, nous avons suivi systématiquement l'histoire de Jonas. Et tout cela nous apprend beaucoup de choses, beaucoup de choses. Frères et sœurs, je suis conscient que ceux qui viennent au culte le dimanche, au premier, au deuxième, au troisième, ce sont des gens qui, pour la plupart d'entre eux, ne peuvent pas venir la semaine, pour différentes raisons, mais qui viennent le dimanche. Et je me sens dans l'obligation de les enseigner, afin qu'ils grandissent, afin qu'ils connaissent la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là simplement pour nous réjouir, chanter des cantiques, écouter la musique, n'est-ce pas? Non, non, non. Nous sommes là aussi pour fonder nos vies sur un fondement solide. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Ce fondement, c'est sa sainte parole. La parole de la vérité. Nous devons savoir ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons. Et nous devons voir l'exemple de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui étaient avant nous. Comment ils ont vaincu? Comment ils ont mené leur combat? À quoi ils sont arrivés? Quel a été le résultat de leur foi? Frères, sœurs, en un mot, le résultat de la foi, c'est le triomphe par Jésus-Christ le Seigneur. Le triomphe. Mais dans l'Ancien Testament, ils ne connaissaient pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'était pas une chose connue pour eux. C'est un concept, c'est une vérité, c'est une doctrine que l'on trouve que dans le contexte de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le Seigneur. Dans l'ancienne alliance, ils n'étaient pas nés de nouveau. C'étaient tous des hommes au niveau de la chair. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tant de fois Israël, qui pourtant croyait au Dieu unique, au seul Dieu, Israël a eu tellement de difficultés à marcher dans les voies de ce Dieu unique. Ce Dieu unique, à tout moment, il se laissait influencer par les choses du monde, par les modes, par les façons de penser, par les philosophies, par les faux dieux de ce monde, et par la désobéissance et les désirs de la chair. Mais par la grâce de Dieu, il y a toujours eu en Israël, en reste, un groupe d'hommes et de femmes qui ont refusé de ployer le genou devant Baal, devant les idoles, des hommes et des femmes qui ont reconnu la véracité et la puissance du Dieu qui s'était révélé au mont Sinaï, qui a parlé à travers la bouche des prophètes, et dont les prédictions se sont réalisées, qui bien souvent n'ont pas compris ce qu'ils disaient sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais qui par la suite ont prouvé les paroles qui ont été prononcées par les événements que Dieu a voulu annoncer à l'avance à ce peuple qui n'était pas né de nouveau et qui n'avait pas la nouvelle naissance et qui offrait des sacrifices pour le péché en offrant des animaux parfaits, d'accord, mais incapables d'enlever le péché. Pourquoi ? Parce que c'était le sang des animaux, ce n'était qu'un symbole, qu'une couverture pour le péché, un symbole de celui qui allait venir une fois pour toutes pour ôter le péché du monde, qui allait s'offrir lui seul en sacrifice expiatoire pour quiconque croit. Eux, ils regardaient dans le futur, nous, nous regardons dans le passé. Pour nous, tout est accompli. Jésus l'a dit lui-même. Mais du temps de Gédéon, tout n'était pas encore accompli. Et ces hommes n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas une complète révélation de ces choses. Les prophètes ont parlé de celui qui allait venir, bien sûr, mais sans comprendre véritablement tout le processus et tout le chemin que Dieu, à travers lequel Dieu voulait faire passer cette vérité, révéler cette vérité. Et cette révélation n'est venue que progressivement. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Et il a fait aussi des merveilles pour ce peuple. Combien de fois nous voyons des manifestations extraordinaires que Dieu a faites pour ce peuple. Nous allons dire peut-être, nous ne voyons pas de telles manifestations miraculeuses aujourd'hui. Dieu qui parle, Dieu qui se présente sous la forme d'un homme, comme pour Gédéon, et qui donne des promesses, et qui emploie cet homme d'une façon extraordinaire, ou d'autres, lorsqu'on lit la Bible, et nous nous étonnons, et nous disons, « Oh, je veux voir ça aujourd'hui. » Mais écoutez-moi, mes frères, nous connaissons plus qu'eux, nous avons plus de lumière qu'eux, nous savons qui s'est offert une fois pour toutes pour nos péchés, nous avons toute la révélation de la Bible, eux ne l'avaient pas, et Dieu a paillé à ce manque, si je puis dire, à travers la voix des prophètes, l'onction qu'il a donnée à cet homme, à cet autre homme, pour apporter une vérité, une révélation. Il a envoyé l'ange de l'Éternel à plusieurs reprises à ses serviteurs pour leur apporter quelque chose qui venait de lui, parce que ces hommes-là n'avaient pas tout ce que nous avons. Mais nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Ceci n'empêche pas que Dieu, s'il le veut, il peut se révéler et parler d'une façon extraordinaire à un homme ici, à un homme là. Mais nous le voyons beaucoup moins que dans l'Ancien Testament. Mais le Saint-Esprit n'est pas loin. Il est en nous. Et il nous parle. Et il nous dirige. Et il nous conduit. Nous n'avons pas besoin d'avoir une vision, un ange, ou que sais-je encore pour nous parler. Il n'est pas loin, il est en nous. Alléluia. Et quand nous vivons pour lui, même de façon inconsciente, lorsque nous vivons pour lui, il va conduire nos pas. Et après avoir passé sur ce chemin-là, nous allons dire, je ne savais pas, mais c'est Dieu qui m'a conduit. Oh, c'est merveilleux que la vie qu'il nous offre aujourd'hui, nous n'avons rien à regretter. Gédéon, avec la révélation qu'il avait, Gédéon, avec la connaissance qu'il avait, a écouté la voix de l'ange de l'Éternel qui lui a parlé. Et il a fait quelque chose duquel nous avons parlé dimanche dernier. Il a abattu l'autel de Baal, il a abattu le poteau d'Achéra, de la déesse Achéra, il a offert un sacrifice à l'Éternel avec un des bœufs de son père, un bœuf de 7 ans, le nombre d'années où le peuple était sous l'oppression d'Amalek. Il a fait tout cela, mais il l'a fait la nuit avec ses hommes, 10 de ses serviteurs. Ils se sont mis au travail, croyez-moi, mais il était pas sûr de la réaction de son père. Son père était, pour ainsi dire, une autorité à Ophra, dans cette bourgade, dans ce village. Une autorité, c'était chez lui, où il y avait cet autel de Baal. Et là, Gédéon met tout par terre et il emploie les bœufs de son père, l'un pour le sacrifice, l'autre pour démanteler l'autel de l'Éternel. Voilà. Gédéon ne savait pas que dirait son père. Gédéon ne savait pas. Et il avait peur. Et son père, Joas, duquel il avait peur, devient son principal défenseur. Sachant que si nous obéissons au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, si nous faisons ce qu'il nous dit, ce Dieu puissant peut faire des choses merveilleuses dans la vie des personnes desquelles nous ne pouvions nous confier, nous ne pouvions nous attendre à une aide et à un secours quelconque. Ces personnes peuvent avoir été nos contradicteurs, ils peuvent avoir été nos ennemis, ils peuvent avoir été nos adversaires. Mais qui ces gens-là, voyant notre courage quant à la foi, notre obéissance quant à Dieu, notre détermination quant au service et au témoignage approuvé par Dieu, ces gens peuvent être touchés par notre courage, peut-être touchés par le témoignage qui sort de notre bouche, touchés par nos actions de justice. Et ils peuvent alors désormais comprendre et nous approuver et devenir même nos défenseurs. C'est ce que Dieu fait. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut jamais que nous haïssions nos ennemis, que nous haïssions ceux qui sont contre nous, que nous haïssions et rejetions ceux qui nous opposent. Non, car peut-être qu'un jour, à cause de notre témoignage, à cause de notre façon de vivre la vie de Christ dans la justice et dans la vérité, leur conscience va être touchée. Et un jour, ceux-là vont se tourner en notre faveur. C'est ce que Dieu fait. Ceux qui nous faisaient le plus peur deviennent nos alliés. C'est ce qui s'est passé pour Gédéon. Joas a passé le test. Et le résultat a été positif. Il a autorité dans ce village d'Ophra. Sa prise de position vis-à-vis de tous a été claire et nette. Claire et nette. Et sa théologie a été juste et sensée. Personne qui raisonne normalement ne peut s'y opposer. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même et qu'il le prouve, puisqu'on a détruit son autel. Ça, c'est la logique même. C'est la logique même. Vous vous opposez aux manipulations sataniques. Vous vous opposez aux pratiques occultes. Vous vous opposez aux manipulations sordides. Que ça vienne de la coutume, que ça vienne de la façon de vivre, que ça vienne des sorciers, des féticheurs. Vous vous y opposez avec courage. Que peuvent-ils faire contre vous? N'appartenez-vous pas au Dieu vivant? Il prendra votre défense. C'est une question de foi. Il y a beaucoup trop de peur et de crainte dans le cœur des enfants de Dieu. Beaucoup trop. Écoutez-moi bien. Voici une chose que j'ai remarquée, même dans notre Église. Lorsqu'il y a des gens qui sont malades, ils ne veulent surtout pas le dire à personne. Ils ne veulent surtout pas venir à l'Église pour qu'on prie pour eux, pour qu'on leur fasse l'onction d'huile. Pourquoi tout le monde va le savoir? Pourquoi encore? Eh bien, parce qu'il y a une crainte négative. Ah oui? Il y a une crainte négative. Tout d'un coup, on apprend une personne s'est fait opérer ici, s'est fait soigner là, a reçu des remèdes pour ceci et pour cela. Jamais ils ont parlé aux frères et aux sœurs. Jamais ils n'ont demandé la prière et l'onction d'huile dans l'église. Alors, pourquoi? La peur de quoi? Des fétiches? Des sorciers? De quoi encore? Si vous en êtes encore là, vous êtes des gens malheureux. Que peuvent faire les sorciers? Que peuvent faire les fétiches? Que peuvent faire la manipulation occulte? Dites-moi un peu, que peut faire Baal? Si vous avez peur, c'est que vous avez peur de Baal et que peut-être Baal est encore dans votre cœur. Vous n'osez pas dénoncer ces choses-là. Vous n'osez pas les exposer. Vous n'osez pas les crier contre. Eh bien, frères, sœurs, c'est que vous êtes sans force devant lui. Pourquoi? Parce qu'il a une place dans votre cœur. Je suis effrayé de voir la crainte, la peur qu'il y a dans les membres d'église pour que tout le monde sache qu'ils sont malades, pour que tout le monde sache qu'ils ont besoin de la prière. Et les voilà, on les voit dépérir. Ça va, mon frère? Oui, oui, ça va. Ça va, ma soeur? Oui, oui, ça va, ça va. Et pourtant, on voit que ça ne va pas. Mais on ne peut pas leur serrer la gorge. Allez, dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne veut pas dire, ils ne disent pas, mais il manque la bénédiction de Dieu. Il manque la puissance de Dieu de guérison dans leur corps. Ils veulent cacher. Cacher, pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Les sorciers peut-être, les ceci, les cela. Quoi donc? Laissez-moi ces mensonges de la coutume, ces mensonges de la culture de côté. Vous avez une nouvelle culture, celle du royaume. Et si Satan vous attaque, vous venez vers les frères. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, qu'ils oindront d'huile. Et les anciens prieront afin que le malade soit guéri. Et s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Voilà ce que dit la Bible. Moi, je crois à la parole de Dieu. Et Dieu ne peut mentir. Mais si vous n'y croyez pas, vous ne demandez rien et vous allez au docteur, d'accord. Mais vous perdez. Oui, mes frères. Il y a une position à prendre. Enfant de Dieu, oui ou non? Si nous sommes encore sous le joug de Baal, alors nous sommes des gens malheureux. Malheureux. Joas a passé le test. Le résultat a été positif. Il était positif. Pourquoi? Parce qu'il est clair que si Baal est un dieu, eh bien il va se défendre. Bien sûr, l'ennemi Satan, il voudrait foudroyer Gédéon sur place. Évidemment, c'est son désir, mais il ne le peut pas. Voilà. Pourquoi est-ce que vous craignez Satan? Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes sauvé par grâce, né de nouveau, sachez que Satan ne peut rien faire sur vous. Il ne peut rien faire sur vous. Quel que soit le sorcier, quel que soit le féticheur qui est assis dans l'église à côté de vous, ça m'est égal qu'il vienne et qu'il soit délivré. Et s'il ne veut pas être délivré, qu'il s'enfuit. Si Baal est un dieu, qu'il le prouve. Puisqu'on a détruit son autel. L'ennemi voudrait foudroyer Gédéon sur place, ça je peux vous assurer. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas, car Dieu veille sur ses fidèles. Qui croyez-vous plus, Satan ou Dieu? Alors, puisqu'il a donné ses promesses, puisqu'il a dit qu'il vous protégeait, puisqu'il a dit qu'il était avec vous jusqu'à la fin du monde, puisqu'il a dit qu'il allait vous conduire par la main, alors marchez avec lui et laissez Satan, il ne peut pas vous toucher. Ah oui, mais je ne me suis senti pas bien, j'ai mal dormi la nuit, j'ai eu des mauvais rêves, et laisse-moi ça de côté. Mets-toi sous le sang de Jésus. Bien sûr qu'il est fâché, lui. Bien sûr qu'il est en colère. Croyez-vous qu'il soit heureux que je parle comme je parle? Mais ça m'est égal. Ça, c'est la parole de Dieu. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que nous croyons dans la parole de Dieu? Oui ou non? Satan ne peut toucher Gédéon. Dieu veille. Il veille sur ses fidèles. Et il a promis sa protection sur ceux qui marchent avec lui, sur ceux qui lui obéissent, malgré les oppositions. Je dis bien, malgré les oppositions dans le monde et les oppositions dans le monde spirituel, dans le monde physique et dans le monde spirituel. Malgré! N'a-t-il pas dit, vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents et toute la puissance de l'ennemi et nous vous ferons point de mal? Les scorpions et les serpents ont du poison, du venin pour tuer. Mais qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Vous marcherez sur eux. Vous marcherez sur les féticheurs. Vous marcherez sur les occultes. Vous marcherez sur la puissance de Satan. Vous marcherez sur ces puissances sataniques qui cherchent à rendre les hommes esclaves. Oui, vous les piétinerez. Pourquoi? Parce que leur venin ne va pas vous toucher. Parce que voici, je suis avec vous. Bien sûr que vous allez les rencontrer. S'il a dit, vous marcherez sur les serpents, les scorpions, c'est donc que nous allons les rencontrer. Alors, est-ce que vous allez crier, un serpent, un scorpion? Non! Vous continuez votre route. Quel que soit le serpent ou le scorpion, ça peut être un cobra, ça peut être un n'importe quoi, peu importe. Jésus est avec vous. Jésus est avec toi. C'est là où intervient la foi. Il y a beaucoup de gens qui ont la Bible, mais ne croient pas ce que la Bible a dit. Et quand le moment des difficultés vient, les voilà qui tremblent. Ah, il faut dire à personne, S'il vous plaît, marchez dans la victoire. La victoire vous est offerte. L'ange de l'Éternel vous a déjà parlé. Laissez-les faire leurs manipulations. Laissez-les faire invoquer les esprits. Laissez-les faire. Satan voudrait vous écraser. Il voudrait envoyer tous les scorpions, tous les serpents pour vous envenimer et vous tuer. Mais peu importe, vous êtes avec le Dieu fort. Persévérez, marchez avec lui. Pourquoi un chrétien doit vivre dans la peur? Gédéon a défié Baal. Gloire à Dieu. Et il l'a vaincu. Baal, ce n'est pas seulement cette statue ou cet autel, Baal, mais c'est cet esprit qui est derrière cet autel. Ce démon. Il a vaincu Baal. Baal ne l'a pas terrassé. Au contraire, à partir de ce jour, il a reçu un nouveau nom. Il s'est appelé désormais Jérubal, c'est-à-dire que Baal se défende, ou bien, autrement interprété, que Baal plaide sa cause, si il est un dieu. C'est Joas qui, défié par l'action de son fils, l'action courageuse dans l'obéissance et la vérité, défié par l'action de son fils, qui relève le défi en lançant un nouveau défi à Baal. Gédéon a lancé un défi à Baal en le démolissant. Son père, voyant l'exemple, lance un défi à Baal, qu'il se défende s'il est un dieu. Ah, merci Seigneur. Le courage de l'un entraîne les autres. Pas de réaction de Baal. Pas de réaction de Baal. Pas de tonnerre, pas d'éclair, pas de mort subite de Gédéon. Désormais, Gédéon devient le conquérant de Baal. Un homme seul avec Dieu est plus fort que 1000 adorateurs de Baal. C'est ça que nous devons savoir. Oh, je suis seul, Seigneur. Je suis le seul dans ma famille qui est cru. Je suis le seul, tu vois la pression que j'ai de mes oncles, de mes tantes, de mes cocos, de mes nocos. Seigneur, tu vois. Tu vois la pression du village, tu vois la pression des chefs de tribu, tu vois la pression de ces féticheurs. Tu vois, moi je suis fils d'un père qui était chef de tribu. Seigneur Jésus, tu vois l'occultisme qu'il y avait. Qu'est-ce que je dois faire? Moi je suis seul là, au milieu, je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Arrête de confesser le négatif. Je suis avec toi. Marche en vainqueur. C'est ce que le Dieu vivant te dit. J'aimerais vous raconter une histoire du passé lointain, mais une histoire vraie qui se trouve inscrite dans l'histoire de l'Église. En 1548, plusieurs siècles en arrière, 1548, celui qui devint le grand réformateur de l'Écosse en Angleterre, du nom de John Knox, il était prisonnier pour sa foi entre les mains du roi de France. Il était enchaîné sur le banc d'une galère. Les galères étaient ces grands bateaux en bois qu'on construisait. À l'époque, il n'y avait pas, les moteurs n'existaient pas. Il n'y avait que la force du vent et les rames. Et on avait construit ces galères avec des immenses rames très lourdes. Il fallait 3 ou 4 hommes pour manier une rame. Et on employait pour ce travail-là des forçats, des repris de justice et beaucoup d'hommes condamnés à cause de leur foi. Et lui, il était prisonnier pour sa foi entre les mains du roi de France sur une de ses galères, pour manier ces grandes rames qui servaient à déplacer ces gros bateaux. On utilisait des hommes de toutes sortes, bien souvent aussi des innocents. Travail très pénible, très dur. Ils étaient enchaînés à leur banc sous les coups des fouets des hommes qui les tenaient sous leur domination, avec beaucoup de brutalité. Un jour, un officier du bateau où se trouvait John Knox vint avec une statue de bois représentant la Vierge Marie. Il exigea que chaque prisonnier embrasse la statue. John Knox refusa d'embrasser la statue. Ils la poussèrent avec violence contre son visage. Alors John Knox la saisit des deux mains et la jeta par-dessus bord en disant avec force, de telle façon que tous puissent l'entendre, que Notre-Dame se sauve elle-même. Elle est suffisamment légère qu'elle apprenne à nager. Bien sûr, il a reçu quelques coups de fouet supplémentaires, mais aucun jugement divin n'est tombé sur lui. À cette époque-là, tout le monde était terriblement superstitieux, tout le monde était dans l'ignorance. Vous savez que lorsqu'on possédait une Bible, on était condamné à mort. Et les premiers qui ont voulu traduire la Bible dans le langage populaire, ils ont eu à souffrir la mort, persécution et tout ce que vous pouvez imaginer. Ceux qui avaient la Bible qui se répandait malgré tout, quand on la trouvait chez eux, on les rouait de coups, on les envoyait aussi aux galères, on les brûlait vifs, on voulait maintenir tout le monde dans l'ignorance. Mais il n'y a rien qui a ouvert autant l'intelligence de l'humanité que la Bible. Je ne lisais pas plus tard que hier, en Russie, dès l'instant où la Bible a été introduite, où la langue et l'écriture a été fixée par un chrétien, vous m'entendez, et que la Bible a été traduite, toute la société a commencé à changer. Et c'est à partir de cela qu'on a commencé une littérature en Russie. La parole de Dieu et la Bible ouvrent l'intelligence. Et cette parole, quoique persécutée comme aucun livre dans le monde, elle est plus lue que jamais à travers notre monde. Aucun jugement divin ne tomba sur John Knox. Et ces hommes ignorants commencèrent à le regarder comme quelque chose de spécial. Il devint, pour ainsi dire, le confident de ses camarades de souffrance. Il en a amené plusieurs au Seigneur. Et même ses chefs n'ont plus exigé qu'ils se soumettent à des rites idolâtres. Il fut relâché quelque temps plus tard. Il devint le grand réformateur qui amena des milliers de personnes, d'hommes et de femmes, à la connaissance de Jésus, le Seigneur et Sauveur, en luttant contre une religion morte et empreinte d'idolâtrie. Baal. Baal est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la liberté. Vous faites ce que vous voulez. Faites comme vous, ce que vous voulez. Alors vous pouvez adorer toutes sortes de dieux. Frères, sœurs, Satan a différentes armes pour lutter contre la vérité. Ne vous y trompez pas, le matérialisme, c'est un faux dieu. Et combien de fois, même la politique, même, que sais-je, l'argent, nos familles, notre culture, que sais-je encore, beaucoup de choses deviennent des idoles. Le nom de Gédéon se répand en Israël depuis cette action. Avant, il n'était pas connu. Qui connaissait Gédéon? Il n'était qu'un ouvrier agricole chez son père. Personne ne le connaît. Il n'était même pas militaire, même pas général, rien du tout. Il n'était pas même un officiel dans la nation. Mais maintenant, tout le monde parle de Gédéon. Tous en parlent. Il devient connu à cause de sa bravoure contre Baal, le faux dieu. Il devient connu à cause de la visitation de l'ange de l'Éternel. Le témoignage se répand en Israël. Dans toutes les conversations à travers Israël, dans les différentes tribus, Aser, Zabulon, Nephtali, dans toutes les tribus, on en parle, Manassé. Le Dieu d'Israël est à nouveau présent dans nos mémoires, dans leur mémoire. Il n'aurait donc pas abandonné son peuple, le Dieu d'Israël. Non, il ne l'a pas abandonné. Il a choisi un homme. Vous ne le connaissiez pas, mais maintenant vous le connaissez. Pourquoi? La main de Dieu sur lui. Ce Dieu est puissant. Ce Dieu est saint. Ce Dieu est juste. Mais ce Dieu est jaloux. Il ne veut pas partager votre cœur avec Baal. Un grand espoir naît dans les cœurs de tous. Tous ceux qui voient Gédéon ont une preuve visible de la faiblesse de Baal et de la puissance du Dieu d'Israël. Vous voulez une preuve? En voici une. Dieu a rendu Gédéon fort. Il n'est pas le petit timide qui bat son blé dans un pressoir. C'est terminé cette histoire-là. Il était transformé. Gédéon a mené sa première grande bataille et remporté sa première grande victoire, de laquelle toutes les autres dépendent. Cette victoire est une victoire spirituelle. Vous voulez vaincre dans les choses matérielles, remportez la victoire sur le plan spirituel. Revenez à Dieu. Bannissez Baal. Et vous verrez comme Dieu va vous bénir alors dans vos batailles sur le niveau spirituel. Sur le niveau spirituel, l'ennemi est terrible. Satan, les démons. Frères, sœurs, c'est cette bataille qu'il faut d'abord gagner. Le reste, c'est rien. Dans le monde physique, c'est rien. Si le Dieu fort est avec vous, il n'y a pas de problème. Vous vaincrez dans le monde physique. Vous serez plus fort dans le monde physique. C'est cette bataille spirituelle que vous n'avez pas gagnée encore. Pourquoi laissez-vous Baal encore prendre le dessus? Ce retour à Dieu public élève aux yeux de la nation entière Gédéon, Jérubal, et fait que désormais il devient un homme d'influence, un homme reconnu, un homme que l'on écoute, un homme qui renversera Amalek et Madian. Voilà. Il n'a pas reçu cette autorité, il n'a pas reçu cette reconnaissance officielle à travers un parti politique. Il n'a pas reçu cette reconnaissance de la masse à travers des propagandes politiques, des réunions politiques où il parle de son programme, où il parle de tout ce qu'il va faire. Non ! C'est le Dieu lui-même, le Dieu puissant qu'il a choisi. Qu'il a choisi de là où personne ne le connaissait pour faire un homme que tout le monde connaît. Pourquoi ? Pour délivrer Israël. Où est-il cet homme dans notre pays du Congo ? Serait-ce le moyen par lequel Dieu va agir dans notre pays ? Je ne sais. Je ne sais. Mais Dieu n'a pas que ce moyen pour délivrer le pays. Non. Il n'a pas que ce moyen. Dieu a les moyens qu'il veut au moment nécessaire, selon son plan, selon ce qu'il a décidé. Mais croyez-moi, Dieu ne va jamais faire alliance avec Baal. Et si nous voulons garder Baal, nous resterons sous le régime du pillage et de la pauvreté et du malheur. Bannissons Baal. Dieu a élevé Gédéon aux yeux de la nation parce que Dieu l'a appelé pour faire une œuvre particulière. Ça, c'est le reste du message de dimanche que je n'ai pas pu finir. Lisons maintenant dans Juges, les versets suivants, au chapitre 6, où il est dit, « Tout Madian, Amalek et les Bédouins de l'Orient se rassemblèrent, passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. » Il sonna du corps, et le clan d'Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Ah, maintenant, on entend Gédéon appelle. D'accord, allons en prie. Qui est Gédéon? Oui, c'est celui auquel Dieu a parlé. C'est l'homme que Dieu a choisi. Amen. La propagande de Dieu vaut mieux que celle des hommes. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à sa rencontre. Plus de discussion. De quelle partie es-tu? De quelle ethnie es-tu? De quelle tribu es-tu? Non! Terminé. Unis sous la bannière du Dieu vivant. Unis pour le combat de la libération du joug de Madian, d'Amalek, et des pilleurs, unis pour la vérité, unis pour la justice, unis pour le bien commun. Ce n'est pas moi, mais c'est nous. Nous lisons dans ce passage que nous venons de lire, que Madian, Amalek et les Bédouins de l'Orient sont arrivés. Tout le commencement de l'histoire que nous avons déjà médité tous ces dimanches, là nous voyons que c'est avant l'invasion annuelle. Ils venaient tous les ans. Avant l'invasion annuelle, ils savaient qu'ils allaient venir. Ils savaient qu'ils allaient venir. Alors rapidement, ils ramassent le peu de blé qu'ils ont, ils le préparent pour aller le cacher. Ils ramassent leur petit bétail qui reste, ils le préparent pour le cacher dans la montagne. Ces hommes ne peuvent pas aller dans la montagne, ils ont leurs chameaux et tout ça, ils ne connaissent pas le pays, mais dans la plaine, c'est eux qui ramassent tout, qui ravagent tout. Nous lisons que, voilà, à ce moment-là, la coalition des pilleurs se rassemble, ils passèrent le Jourdain, nous venons de le lire, et ils campèrent dans la vallée de Jisréel, une grande vallée. Si vous allez en Israël, vous allez voir cette vallée. C'est le temps des invasions. Gédéon n'est plus un inconnu en Israël. On sait que Dieu lui a parlé. On sait la position qu'il a prise pour Dieu et contre Baal. On connaît la mission qu'il a reçue de la part du Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël a mis sa main sur lui. Il a une responsabilité en faveur du peuple. Il doit les rassembler. Un, il doit organiser. Deux, il doit agir. Comment va-t-il le faire? Est-ce que Gédéon sait? Je crois qu'il doit se poser beaucoup de questions. Tu as dit que tu serais avec moi. Tu as dit que tu me donnerais l'intelligence. Tu as dit que je renverserais Madian. Comment vais-je le faire? Peu importe. Tu es capable, Seigneur. Moi, je ne suis pas capable. Si tu m'as choisi, bon, dis-moi ce qu'il faut faire. Mais nous lisons un verset clé ici. Un verset clé où il est dit. 34, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Voilà le secret. Gédéon fut rempli de l'Esprit de l'Éternel. Avant, il ne l'était pas. L'Éternel lui a parlé, il a vu l'ange de l'Éternel, il a cassé l'autel de Baal, il a obéi, tout cela. Dieu ne l'a pas rempli de l'Esprit avant qu'il obéisse. Il donne son Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est ce que nous disent les Actes des Apôtres. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Voilà le changement radical qui se passe dans la vie de Gédéon. Il fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il a été revêtu comme un vêtement. C'est le même mot qui est utilisé dans Genèse au chapitre 28 et au verset 20. Lorsqu'il est parlé de revêtir un vêtement, si vous prenez dans le texte hébreu, dans ces deux versets, c'est le même mot, revêtir un habit, revêtir l'Esprit de l'Éternel. Quand il est parlé de se revêtir d'une armure pour un guerrier qui s'en va à la guerre, revêtir son armure, c'est le même mot qui est employé dans Ésaïe 59, 17. Quelle belle image. Le Saint-Esprit revêt Gédéon comme un vêtement. Le Saint-Esprit couvre, le Saint-Esprit habille Gédéon et le contrôle. Alléluia. Dans deux autres endroits de l'Ancien Testament, nous trouvons cette phrase. Dans 1 Chronique 12, 19, où il est dit, « Alors l'Esprit revêtit Amasai, et Amasai parla à David sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. » Pourquoi l'Esprit de Dieu l'avait revêtu? Dans 2 Chroniques 24, 20, nous lisons, « L'Esprit de l'Éternel revêtit Zacharie. » Et Zacharie, qui était un prophète de l'Éternel, un sacrificateur, parla au peuple en dénonçant le péché du peuple. Il a porté un message de reproche au peuple d'Israël à cause de son péché de la part de l'Éternel. Et l'Éternel l'a revêtu pour annoncer ce message qu'il devait apporter, qui est un message dur, pas facile à donner. Mais il était fidèle. Mais le peuple a rejeté ce message et il nous est dit qu'ils le tuèrent. Ici, ceci nous fait voir que la victoire de Gédéon sur les ennemis d'Israël, cette victoire qui va remporter bientôt, est le fruit de l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fruit de l'action de Gédéon, mais du Saint-Esprit qui a revêtu Gédéon et rendu capable de faire l'impossible. Ah, de nouveau nous touchons à l'impossible. Le peuple de Dieu, quel qu'il soit, dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est un peuple qui vit dans l'impossible. Impossible à l'homme naturel, mais possible pour celui qui marche avec son Dieu, revêtu de l'Esprit. Notre force et efficacité dépendent de cet esprit de puissance, de cet esprit de force qui agit en nous, alléluia, qui agit à travers nous. Et c'est lui qui nous rend capables d'accomplir une tâche qui nous dépasse. Dieu nous demande de faire des choses qui nous dépassent, qui sont au-delà de nos possibilités. Frères, sœurs, je me demande à Dieu que chaque membre de cette Église soit des hommes et des femmes revêtus de l'Esprit et qui fassent des choses qui sont incapables à l'homme naturel, mais que Dieu rend capable pour le témoignage, pour sa gloire. Car s'il n'y en avait que quelques-uns qui étaient revêtus de l'Esprit dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, chaque membre du corps de Christ doit être revêtu de l'Esprit. Car nous sommes dans une génération différente. Le péché surabonde, la tentation, la violence, la méchanceté, le matérialisme et tant de choses. Mais Dieu, dans notre temps, nous a équipés de façon particulière pour être des vainqueurs dans la bataille spirituelle que nous avons amenée, et nous serons vainqueurs dans la bataille au niveau du naturel. Car nous combattons d'abord au niveau du surnaturel. Gédéon est un homme changé. Il a rencontré l'ange de l'Éternel, Jésus. Il est devenu un homme utile que l'Éternel peut utiliser en faveur des autres. Si Dieu a choisi Gédéon, si Dieu s'est révélé à Gédéon et lui a parlé, ce n'est pas pour élever Gédéon et pour qu'il devienne orgueilleux de lui-même, de ce qu'il a reçu. Non! Si Dieu a fait cela pour lui, c'est afin qu'il soit un bénéfice pour les autres, afin qu'il soit une bénédiction aux autres, afin qu'à travers lui, la bénédiction puisse aller sur les autres. Si Dieu nous bénit, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres. Si Dieu nous donne quelque chose, c'est pour les autres, c'est pour le bénéfice des autres. Nous n'avons rien à nous vanter et nous frapper la poitrine pour ce que Dieu nous aurait donné. Gloire à Dieu pour sa miséricorde. Gloire à Dieu pour sa grâce qui nous a accordé des dons, quels que soient ces dons. Mais s'il nous les a donnés, c'est pour qu'ils soient mis en action en faveur des autres. Et chaque fois, nous devons rappeler aux autres, ce n'est pas moi, mais c'est celui qui habite en moi. Ne prenons pas la gloire qui appartient au Dieu vivant pour nous-mêmes. Rejetons tout cela, mais donnons gloire à Dieu et attirons les regards des autres sur Dieu. Si je parle comme je parle, si j'agis comme j'agis, si par mon moyen des miracles et des prodiges sont manifestés, sachez que ce n'est pas moi. Non, je ne veux pas que vous me glorifiez et que vous fassiez de moi une idole, mais adorez le Dieu vivant, le Dieu vivant, car c'est lui qui donne des dons aux hommes comme il le veut, et ceci pour sa gloire. Gédéon n'est plus le même. Il est revêtu de la puissance d'en haut, pour un but. Et si Dieu nous donne son esprit, c'est pour un but. Baissons la tête. Tu nous parles encore par ta sainte parole. Aide-nous à la comprendre, ô Seigneur. Merci pour l'exemple que tu nous donnes à travers Gédéon. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre et à soumettre nos vies, à remettre nos vies, notre destinée entre tes mains. Ô Seigneur, garde-nous de toute hypocrisie, de toute vantardise. Donne-nous de comprendre chaque fois, encore et encore, tout vient de toi. Et si tu m'as choisi, j'en suis indigne. Je ne suis qu'un petit ouvrier agricole. Je ne suis qu'un homme qui est peu instruit. Je ne suis qu'un homme qui est peu de bagages intellectuels. Je ne suis qu'une femme, bien faible. Je ne suis qu'un jeune homme. Je ne suis qu'une jeune fille sans beaucoup d'envergure qui me connaît. Seigneur mon Dieu, mais à toi je me confie. Utilise-moi, mets ta main sur moi pour que tu puisses, Seigneur, te révéler au monde, puisque c'est le chemin que tu as choisi. Ô mon Dieu, je te donne ma vie et fais ce que tu veux avec moi. Et garde-moi dans tes voies. Seigneur, garde-moi dans tes voies. Ô Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu nous as parlé. Que chacun examine son cœur honnêtement à cette heure. Et Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, sanctifie cette offrande, sanctifie ces dîmes que tes enfants t'apportent maintenant. Seigneur, que chaque centime, chaque franc de ces sacrifices qui sont offerts maintenant te soit agréable et serve, oui, serve à l'accomplissement de ton œuvre, à l'accomplissement de ta volonté dans nos vies et dans la vie des autres. Tu nous donnes pour donner. Celui qui donne recevra. Et ça, c'est vrai, Seigneur. Nous l'avons expérimenté. Merci, Père. Prends nos vies, prends nos biens et glorifie ton nom. Au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.